Chapitre 14. Journal de Mina Harker.
Jonathan se sent mieux, après une mauvaise nuit. Je suis très contente qu'il ait énormément de travail, car cela éloigne son esprit des sombres sujets qui l'agitent, et je me réjouis vraiment qu'il croule maintenant sous les responsabilités de sa nouvelle position. Je savais qu'il serait fidèle à lui-même, et maintenant j'exulte de fierté de voir mon Jonathan s'élever vers le sommet de sa carrière et rester à la hauteur des devoirs qui lui incombent. Il sera dehors aujourd'hui jusqu'à 1 heure tardive, car il a dit qu'il ne pourrait déjeuner à la maison. Mes travaux domestiques sont terminés, aussi vais-je prendre son carnet de voyage et m'enfermer dans ma chambre pour le lire.
24 septembre.
Je n'avais pas le cœur à écrire hier soir. Le carnet tenu par Jonathan m'a fortement ébranlé. Pauvre amour, comme il a dû souffrir, que tout ceci soit vrai ou le fruit de son imagination. Je me demande s'il y a quoi que ce soit de réel dans tout ce récit. A-t-il contracté sa fièvre cérébrale d'abord, et ensuite seulement écrit toutes ces choses horribles? Ou y a-t-il une cause à tout ceci? Je suppose que je ne le saurai jamais, car je n'ose aborder ce sujet avec lui. Et pourtant cet homme que nous avons vu hier, il avait l'air bien sûr de lui. Pauvre garçon, je crois que les funérailles l'ont bouleversé et ont ramené son esprit à des pensées anciennes. Il croit à tout ceci lui-même. Je me souviens que le jour de notre mariage, il a dit « À moins que vraiment quelque devoir impérieux ne m'oblige à retourner aux heures amères qui sont consignées ici, que ce soit le produit de la raison ou de la folie, de la veille ou du songe. » Il semble y avoir à travers tout ceci une sorte de fil conducteur. Ce comte épouvantable devait venir à Londres, si c'était le cas, et s'il était à Londres avec tous ses millions. Il pourrait y avoir un devoir impérieux, et nous ne devrions pas nous y dérober. Je m'y préparerai. Je vais chercher ma machine à écrire à l'instant même et commencer la transcription. Ainsi, nous serons prêts à partager cela avec d'autres yeux si nécessaire. Et alors, s'il en était besoin, peut-être, si j'y suis prête, pourrais-je répondre pour Jonathan et lui éviter qu'on le dérange à ce sujet. Et si jamais un jour Jonathan surmonte sa nervosité, il aura peut-être envie de tout me raconter, et je pourrai alors lui poser des questions, résoudre certaines choses et voir quel réconfort je puis lui apporter. Lettre de Van Helsing à Mrs. Harker. 24 septembre. Confidentiel.
Chère madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous écrire, mais je suis déjà en quelque sorte un ami, puisque je vous ai fait parvenir la triste nouvelle de la mort de Miss Lucy Westenra. Avec l'aimable autorisation de Lord Godalming, je suis autorisé à lire ces lettres et documents, car je suis concerné par certaines affaires d'un intérêt vital. Dans ces papiers, j'ai trouvé des lettres de vous qui montrent à quel point vous étiez amis et combien vous l'aimiez. Oh, Madame Mina, au nom de cet amour, je vous en supplie, aidez-moi. C'est pour le bien des autres que je vous le demande, pour réparer un grand mal et pour mettre fin à des troubles plus terribles que tout ce que vous pouvez imaginer. Me serait-il possible de vous rencontrer? Vous pouvez me faire confiance, je suis un ami du docteur Seward et de Lord Godalming, le Arthur de Miss Lucy. Tout cela doit rester secret pour eux pour le moment. Je me rendrai sur l'heure à Exeter pour vous y rencontrer, si vous avez la bonté de m'y autoriser, à l'heure et au lieu qui vous plairont. J'implore votre pardon, madame. J'ai lu vos lettres à la pauvre Lucie. Je sais combien vous êtes bonne et à quel point votre mari a souffert. Alors, je vous en prie, si possible, ne l'informez pas de ma démarche. Cela pourrait nuire à sa santé. À nouveau, pardonnez-moi, Van Helsing. Télégramme de Mrs. Harker à Van Helsing. 25 septembre.
Venez aujourd'hui par le train de 10h15 si vous arrivez à l'attraper. Je suis disponible à n'importe quel moment. Wilhelmina Harker.
Journal de Mina Harker. Septembre.
Alors que le moment s'approche de rencontrer le docteur Van Helsing, je ne peux m'empêcher de ressentir une vive excitation. Je ne sais trop pourquoi. J'ai l'impression que cet entretien va m'éclairer sur la triste expérience de Jonathan. Et puisque le docteur s'est occupé de ma pauvre Lucie dans son dernier combat, il pourra aussi tout me raconter à ce sujet. C'est d'ailleurs la raison de sa venue. Il souhaite me parler de Lucie et de son somnambulisme, et non de Jonathan. Ah, je ne connaîtrai donc jamais la vérité. Comme je suis sotte. Cet affreux journal a porté sur mon imagination et déteint sur tout le reste. Bien sûr qu'il s'agit de Lucie, de cette étrange habitude qui lui était revenue, et de cette affreuse nuit sur la falaise qui a dû la rendre malade. J'en suis presque venue à oublier à quel point elle était souffrante par la suite, plongée que j'étais dans mes propres problèmes. Elle doit lui avoir parlé de son somnambulisme sur la falaise, et doit lui avoir confié que j'étais au courant. Et maintenant, il souhaite que je lui dise tout ce que je sais, afin de l'aider à comprendre. J'espère avoir bien fait de ne rien dire à Mrs. Westenra. Je ne me le pardonnerai jamais si la moindre action ou omission de ma part avait porté préjudice à cette pauvre chère Lucie. J'espère aussi que le docteur Van Helsing ne m'accusera pas. J'ai eu tant d'inquiétudes et de problèmes ces derniers temps que je sens que je ne pourrai rien supporter de plus à présent. Je pense que pleurer nous fait du bien à tous quelquefois. Cela rafraîchit l'air comme le fait la pluie. Peut-être que c'était la lecture du journal hier qui m'a bouleversée. Et voilà que Jonathan est parti ce matin pour rester loin de moi une longue journée et toute une nuit, la première où nous serons séparés depuis notre mariage. J'espère vraiment que mon cher compagnon saura prendre soin de lui-même et que rien de fâcheux ne lui arrivera. Il est 2h et le docteur ne devrait pas tarder maintenant. Je ne dirai rien du journal de Jonathan, à moins qu'il ne me pose la question. Je suis si heureuse d'avoir dactylographié mon propre journal. Ainsi, au cas où il me demande des détails à propos de Lucie, je pourrai le lui tendre, et cela m'épargnera la peine de répondre à bien des questions.
Plus tard.
Il est venu et reparti. Oh, quel étrange entretien! Cela me donne le vertige. Je me sens comme dans un rêve. Est-ce que tout cela, et même une infime partie de tout cela, est possible? Si je n'avais pas lu d'abord le journal de Jonathan, je n'y aurais même pas songé. Pauvre, pauvre cher Jonathan, comme il a dû souffrir! Qu'il plaise à Dieu que tout ceci ne le perturbe pas davantage. J'essaierai de l'épargner, mais cela pourrait aussi constituer une consolation et une aide pour lui, quelque difficile et lourde conséquence que ce soit, de savoir avec certitude que ses yeux, ses oreilles et son cerveau ne l'ont pas trompé, et que tout ce qu'il a écrit est vrai. C'est peut-être le doute qui le ronge, et il est possible qu'une fois le doute levé dans un sens ou dans l'autre, que l'on prouve que c'était bien vrai ou que c'était juste un rêve, il se sentirait mieux et plus fort pour surmonter le choc. Le docteur Van Helsing doit être un homme bon, en plus d'être un savant, s'il est un ami d'Arthur et du docteur Seward, et s'ils l'ont fait venir de Hollande exprès pour s'occuper de Lucie. J'ai eu l'impression, en le voyant, qu'il était plein de bonté et de noblesse. Quand il viendra demain, je lui poserai des questions à propos de Jonathan, et alors, avec l'aide de Dieu, tout ce chagrin et cette angoisse s'achèveront peut-être en une fin heureuse. J'avais pour projet d'écrire quelques interviews, L'ami de Jonathan qui travaille à Exeter News lui a dit que la mémoire était capitale dans un tel travail, que vous deviez être capable de retranscrire exactement chaque mot prononcé, même si vous deviez peaufiner certaines choses par la suite. Cet entretien était une interview exceptionnelle, aussi j'essaierai de la retranscrire, verbatim. Il était 2h30 lorsque j'entendis toquer à la porte. Je pris mon courage à deux mains et attendis. Quelques instants plus tard, Marie ouvrit la porte et annonça « Docteur Van Helsing ». Je me levai et m'inclinai, et il s'approcha de moi. Un homme de corpulence moyenne, solidement bâti, avec les épaules en retrait sur un buste large et profond, et un cou fermement planté dans le tronc, comme la tête sur le cou. Le maintien de la tête désigne immédiatement un homme de savoir et de pouvoir. La tête est noble, bien proportionnée, avec un crâne large à l'arrière des oreilles. Le visage rasé de près montre un menton dur et carré, une grande bouche résolue et mobile, un nez d'une taille respectable, plutôt droit, mais avec des narines petites et sensibles qui semblent s'agrandir lorsque les épais sourcils broussailleux se froncent et que la bouche se serre. Le front est large et beau, presque droit à sa naissance, puis fuyant par deux bosses parallèles, un front formé de telle façon que ses cheveux roux ne peuvent en aucun cas tomber sur lui, mais tombent naturellement en arrière ou sur les côtés. Il a de grands yeux, d'un bleu sombre, très écartés, tour à tour vifs, tendres ou fermes, selon le cours de ses pensées. Il me dit « Mrs. Harker, je présume. » Je m'inclinai pour acquiescer. « Vous étiez bien, Mina Murray. » Encore une fois, j'acquiesçais. « C'est Mina Murray que je suis venue voir, l'amie de cette pauvre petite Lucy Westenra. Madame Mina, je viens de la part des morts. »« Sœur, dis-je, vous ne pourriez avoir de meilleures recommandations auprès de moi que d'avoir été un ami et un protecteur de Lucy Westenra. » Et je lui tendis ma main. Il la prit et dit tendrement. « Oh, Madame Mina, je savais que je pouvais compter sur la bonté de l'ami de cette pauvre et pure jeune fille, mais je ne savais pas à quel point. » Il finit son discours par une révérence courtoise. Je lui demandai la raison de sa visite, si bien qu'il entra dans le vif du sujet. « J'ai lu vos lettres à Miss Lucy. Pardonnez-moi, mais je me devais de commencer mon enquête quelque part, et il n'y avait personne à qui poser des questions. Je sais que vous étiez auprès d'elle, à Whitby. Elle a tenu de loin en loin un journal. N'ayez pas l'air surpris, Madame Mina, elle ne l'a commencé qu'après votre départ, en s'inspirant de votre exemple, et dans ce journal, elle fait référence à une crise de somnambulisme au sujet de laquelle elle écrit que vous l'avez sauvée. C'est donc mû par une grande perplexité que je suis venue à vous, afin de vous demander si vous seriez assez bonne pour me dire tout ce dont vous pouvez vous souvenir à ce sujet. Oui, je crois pouvoir, docteur Van Helsing, tout vous raconter à ce propos. Ah, alors cela signifie que vous avez une bonne mémoire des faits, des détails? Ce n'est pas toujours le cas des jeunes femmes. Non, docteur, mais j'ai tout consigné par écrit. Je peux vous montrer si vous le voulez. Oh, Madame Mina, je vous en serais très reconnaissant. Vous me feriez un grand honneur. Je ne résistais pas à la tentation de me moquer un peu de lui. Je crois qu'il s'agit d'un reste de la saveur de la pomme originelle qui reste dans nos bouches, et lui tendit donc les notes sténographiques. Il s'en saisit avec un salut reconnaissant et dit « Puis-je le lire ?»« Si vous le souhaitez, répondis-je, aussi ingénument que possible. » Il l'ouvrit, et pendant un instant son visage se défit. Puis il se leva et s'inclina. « Oh, intelligente femme » dit-il. « Je savais depuis longtemps que Monsieur Jonathan était un homme extrêmement prévoyant. Mais regardez, sa femme se révèle être son meilleur atout. Me feriez-vous l'honneur de m'aider à le lire? Hélas, je ne connais pas la sténographie. » À cet instant, ma petite plaisanterie était terminée, et j'en avais presque honte. Aussi, je pris la copie dactylographiée de mon panier à ouvrage et la lui tendis. « Pardonnez-moi, dis-je, je n'ai pas pu m'en empêcher, mais je m'étais dit que vous veniez certainement me poser des questions au sujet de Lucy, et comme vous n'avez sans doute pas le temps d'attendre, Je sais que votre temps doit être précieux. J'ai pris la précaution de le taper à la machine, pour vous. » Il le prit et ses yeux scintillèrent. « Vous êtes si bonne, » dit-il. « Puis-je le lire, maintenant ?»« J'aurai sans doute des questions à vous poser quand j'aurai terminé ma lecture. » « J'insiste, dis-je, pour que vous le lisiez pendant que je commande le déjeuner, et alors vous pourrez me poser des questions tout en mangeant. » Il s'inclina et s'installa dans une chaise, afin d'avoir la lumière dans son dos, et s'absorba dans sa lecture pendant que j'allais donner mes instructions pour le repas, dans le but principal de ne pas le déranger. Quand je revins, je le trouvai en train de faire les 100 pas dans la pièce, son visage tout flambant d'excitation. Il se rua vers moi et prit mes 2 mains dans les siennes. « Oh, Madame Mina, » dit-il, « comment puis-je vous témoigner ma reconnaissance? Ce papier est un rayon de soleil. Il m'ouvre une porte. Je suis étourdie, je suis éblouie de tant de lumière, malgré des nuages qui roulent derrière la lumière sans cesse. Mais cela, vous ne pouvez pas le comprendre. Oh, mais je vous suis infiniment reconnaissant, intelligente femme, Madame. » Il dit cela avec beaucoup de solennité. « Si jamais Abraham Van Helsing peut faire quelque chose pour vous ou pour les vôtres, j'espère que vous me le ferez savoir. Cela me sera un plaisir et un délice de vous servir en tant qu'ami. Mais tout ce que j'ai appris, toutes mes compétences seront utilisées pour vous et ceux que vous aimez. Il y a des ténèbres dans la vie et il y a des lumières. Vous êtes l'une des lumières. » Vous aurez une vie heureuse et bonne, et votre mari sera béni à travers vous. Mais, docteur, voici des louanges très excessives, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas, moi qui suis vieux, et qui ai étudié les hommes et les femmes durant toute ma vie, moi qui ai fait du cerveau et de tout ce qui lui appartient, et de tout ce qui en découle, ma spécialité. « Moi qui ai lu votre journal que vous aviez si bien retranscrit à mon intention et qui respire la vérité à chaque ligne, moi qui ai lu votre si douce lettre à Lucie dans laquelle vous racontiez votre mariage et votre foi, je ne vous connais pas ? Oh, Madame Mina, les femmes bonnes dévoilent toute leur vie à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, afin que les anges puissent la lire, et nous, hommes de science, nous avons en quelque sorte les yeux des anges. Votre mari est d'une noble nature, et c'est également votre cas, car vous avez la foi, et la foi ne peut se trouver dans une nature méchante. Et votre mari, parlez-moi de lui, va-t-il tout à fait bien? Est-ce que sa fièvre est totalement tombée? Est-il fort et plein de courage? Je vis là une ouverture pour parler de Jonathan, et je dis « Il était presque rétabli, mais il a été bouleversé par la mort de Mr. Hawkins. » Il m'interrompit. « Oh oui, je sais, je sais. J'ai lu vos 2 dernières lettres. » Je continuai. « Je crois que c'est cela qui l'a perturbé, car quand nous étions en ville jeudi dernier, il a eu une sorte de crise. » « Une crise ? Si peu de temps après une fièvre cérébrale, cela n'est pas bon. » De quelle sorte de crise s'agissait-il? Il a cru voir quelqu'un qui lui rappelait quelque chose de terrible, cette chose justement qui l'a conduit à sa fièvre cérébrale. Et alors, je me suis sentie submergée par tout cela. La compassion pour Jonathan, l'horreur de ce qu'il avait vécu, le mystère terrifiant de son journal et la peur qui s'est abattue sur moi depuis, tout a fondu sur moi comme un tourbillon. J'ai dû me montrer hystérique, car je me suis jetée à genoux et l'ai entourée de mes bras en le suppliant de soigner mon mari. Il me prit les mains et me releva, me fit asseoir sur le sofa et s'assit à côté de moi. Et tout en tenant ma main, il me dit avec une infinie gentillesse « Mon existence est stérile et solitaire, et si chargée de travail que je n'ai guère eu le temps de cultiver des amitiés. » Mais depuis que j'ai été convoqué ici par mon ami John Seward, j'ai rencontré tant d'excellentes personnes et tant de noblesse que je ressens plus que jamais, et elle ne fait que croître avec l'âge, la solitude de ma vie. Croyez-moi, je viens ici plein de respect pour vous, et vous m'avez donné l'espoir, pas l'espoir d'aboutir dans mes recherches, mais l'espoir qu'il reste des femmes bonnes pour rendre la vie heureuse, des femmes bonnes dont la vie et la vérité seront des leçons merveilleuses pour les enfants à naître. Je suis heureux, heureux de pouvoir vous être utile, car si la souffrance qui afflige votre mari se trouve justement dans mon rayon d'études et d'expérience, je vous jure que je ferai avec joie tout ce qu'il m'est possible de faire pour rendre sa vie forte et virile et la vôtre heureuse. Maintenant, vous devez déjeuner. Vous êtes surmenée et peut-être hyper anxieuse. Votre époux Jonathan n'aimerait pas vous voir si pâle et le contrarier dans son amour ne lui ferait pas de bien. Aussi, pour son bien, vous devez manger et sourire. Vous m'avez tout dit à propos de Lucie, aussi nous n'en parlerons plus, de peur de vous affliger. Je resterai à Exeter cette nuit, car je veux bien réfléchir à tout ce que vous m'avez communiqué, et quand j'aurai médité suffisamment, je vous poserai mes questions, si vous me le permettez. Et vous me direz également ce qu'il en est du trouble de Jonathan, mais pas encore. Pour le moment, vous devez manger. Après, vous me direz tout. » Après le repas, quand nous revînmes au salon, il me dit « Et maintenant, racontez-moi ce qui est arrivé à Jonathan. » Quand il s'agit de parler à ce grand érudit, je commençais à craindre qu'il ne me prît pour une pauvre idiote et Jonathan pour un fou. Ce journal est tellement étrange. J'hésitais à me lancer. Mais il était si attentionné et si bon, de plus il m'avait promis de m'aider, et je lui faisais confiance, aussi je lui dis. « Docteur Van Helsing, ce que j'ai à vous dire est si troublant que vous ne devez pas vous moquer de moi, ni de mon mari. J'ai été depuis hier dans une sorte de fièvre du doute. Vous devez être indulgent, et ne pas me juger stupide pour avoir cru ne serait-ce que la moitié de certaines de ces choses très étranges. » Il me rassura par ses manières autant que par ses mots, quand il dit « Oh, ma chère, si vous saviez à quel point l'affaire qui m'amène ici est étrange, ce serait à vous de rire. J'ai appris à ne pas mépriser les croyances de quiconque, quelque étrange qu'elles puissent paraître. J'ai essayé de conserver un esprit ouvert, et ce n'est pas grâce aux choses ordinaires de la vie, mais aux choses étranges, extraordinaires, aux choses qui vous font douter de votre propre santé mentale. Merci, merci mille fois. Vous m'avez ôté un fardeau de l'esprit. Si vous le voulez bien, je vais vous donner quelque chose à lire. C'est long, mais je l'ai dactylographié entièrement. Cela vous expliquera mon trouble et celui de Jonathan. Il s'agit de la copie de son journal de voyage, où il a consigné tout ce qui est arrivé. Je n'ose rien vous en dire. Vous le lirez vous-même, et vous jugerez par vous-même. Alors, quand nous nous reverrons peut-être, vous serez assez bon pour me donner votre avis. « Je vous promets, » dit-il comme je lui donnais les papiers, « que je viendrai vous voir demain matin aussi tôt que possible, pour vous voir, vous et votre mari, si j'en ai la possibilité. » Jonathan sera là vers 11h30. Venez donc déjeuner avec nous. Vous pourriez ensuite prendre le rapide de 15h34, qui vous déposera à Paddington avant 8h. Il se montra surpris de ma connaissance des horaires des trains, car il ignore que j'ai appris par cœur tous les horaires des trains en partance et en direction d'Exeter, afin de pouvoir aider Jonathan à organiser un éventuel voyage en toute hâte. Il prit donc les papiers avec lui et s'en alla. Et je suis ici, assise, à réfléchir. À réfléchir à je ne sais quoi. Lettre manuscrite de Van Helsing à Mrs. Harker, 25 septembre, 6h.
Chère Madame Mina, j'ai lu l'extraordinaire journal de votre époux. N'ayez aucun doute, aussi étrange et monstrueux qu'il soit, tout est vrai, j'en jurerai sur ma vie. Pour certaines personnes, c'est terrible, mais pour vous et lui, il n'y a rien à redouter. C'est un noble cœur, et laissez-moi vous dire, moi qui ai l'expérience des hommes, que celui qui a osé descendre ce mur pour aller vers cette chambre, oui, et y retourner une seconde fois, n'est pas un homme qui peut être affecté toute sa vie par le choc qu'il a reçu. Son cerveau et son cœur se portent bien, je puis vous le jurer, même avant de l'avoir vu. Alors soyez tranquille. J'aurai à l'interroger à propos d'autre chose. Je me félicite d'être venu vous voir aujourd'hui. J'ai appris tant de choses que je suis perplexe, plus perplexe que jamais. Et je dois encore réfléchir à tout cela. Votre très fidèle Abraham Van Helsing. Lettre de Mrs. Harker à Van Helsing. 25 septembre, 18h30.
Cher docteur Van Helsing, mille merci pour votre gentille lettre qui a retiré un grand poids de mes épaules. Et pourtant, si cela est vrai, quelle chose terrifiante existe dans ce monde ! Et quelle horreur si cet homme, ce monstre, se trouve vraiment à Londres ! J'ose à peine le concevoir. Je reçois, à l'instant où je vous écris, un câble de Jonathan, qui m'avertit qu'il part de Launceston ce soir à 18h25 et sera ici à 22h18. Ainsi, je n'aurai rien à redouter cette nuit. Pourriez-vous, de ce fait, plutôt que de venir déjeuner, venir partager notre petit déjeuner vers 8h, si cela ne fait pas trop tôt pour vous ? Si vous êtes pressé ainsi, vous pourrez partir par le train de 10h30 qui vous amènera à Paddington à 14h35. Ne répondez pas à ce mot. Je considérerai, si je n'ai pas de nouvelles, que vous venez pour le petit déjeuner. Soyez assuré de mon amitié sincère et reconnaissante. Mina Harker. Journal de Jonathan Harker. 26 septembre.
Je pensais ne jamais écrire à nouveau dans ce journal, mais le temps est venu. Quand je suis rentré à la maison hier soir, Mina avait préparé le souper. Après le repas, elle me parla de la visite de Van Helsing et me dit qu'elle lui avait remis une copie de son journal et du mien et qu'elle avait été très inquiète à mon sujet. Elle me montra la lettre du docteur qui affirmait que tout ce que j'avais écrit était vrai. On dirait que cela a fait de moi un autre homme. C'était les doutes que j'éprouvais à propos de la réalité de tout ceci qui me minaient. Je me sentais impuissant, méfiant, perdu dans les ténèbres. Mais maintenant, je sais, je n'ai plus peur, même du comte. Il a donc réussi, après tout, dans son projet de venir à Londres, et c'est bien lui que j'ai vu. Il a rajeuni, comment est-ce possible ? Van Helsing est l'homme qui pourra le démasquer et le chasser, s'il est tant soit peu l'homme que Mina m'a décrit. Nous restâmes longtemps assis à parler de tout cela. Mina s'habille et je vais aller le chercher à son hôtel dans quelques minutes. Il était, je crois, surpris de me voir. Quand je pénétrai dans la pièce où il se trouvait et me présentai, il me prit par l'épaule, tourna mon visage vers la lumière et me dit, après un examen minutieux, « Mais Madame Mina m'avait dit que vous étiez souffrant, que vous aviez subi un choc. » C'était tellement drôle d'entendre cet aimable vieillard au visage dur appeler ma femme Madame Mina. Je souris et lui répondis, « J'étais souffrant, j'avais subi un choc, mais voilà que vous m'avez guéri. » « Et comment donc ? » ?»« En écrivant à Mina hier soir. Je doutais et tout me semblait irréel, je ne savais que croire. Je doutais même de mes sens. Et ne sachant que croire, je ne savais que faire. Et la seule chose que je pouvais faire était de poursuivre le travail qui avait été jusqu'ici le centre de ma vie. Mais cela ne me convenait plus et je me trompais moi-même. « Docteur, vous ne savez pas ce que c'est que de douter de tout, même de soi. »« Non, vous ne savez pas, pas quand on a de pareils sourcils. » Cela sembla l'amuser. Il répondit en riant. « Ainsi vous êtes physionomiste. À chaque heure qui passe, j'apprends du nouveau. Je suis tellement heureux d'aller prendre le petit déjeuner avec vous et, Ô sœur, vous pardonnerez à un vieil homme de vous dire que vous avez de la chance d'avoir une femme telle que la vôtre. Je l'aurais écouté continuer à vanter les mérites de Mina pendant toute une journée. Aussi, je me contentais de hocher la tête et de rester silencieux. C'est l'une de ces créatures de Dieu, façonnées de sa propre main pour montrer aux hommes et aux autres femmes qu'il existe un paradis auquel nous pouvons aspirer et dont la lumière peut nous éclairer ici sur terre. Si franche, si douce, si noble, des qualités, laissez-moi vous le dire, si rares en ces temps de scepticisme et d'égoïsme. Quant à vous, sœur, j'ai lu toutes les lettres adressées à cette pauvre Lucie, et certaines parlent de vous. Alors, je vous connais depuis plusieurs jours à travers ceux qui vous connaissent. Mais la nuit dernière, j'ai appris qui vous étiez réellement. Donnez-moi la main, voulez-vous, et soyons amis pour la vie. » Nous nous serrâmes la main, et il était si sincère et si aimable que j'en fus bouleversé. « Et maintenant, dit-il, puis-je solliciter à nouveau votre aide? J'ai une grande tâche à accomplir, et avant tout, il me faut savoir. C'est là que vous pouvez m'aider. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avant votre départ pour la Transylvanie? Plus tard, je vous demanderai de m'aider à nouveau, d'une façon différente, mais pour l'instant, cela suffira. Écoutez, sœur, dis-je. Ce que vous devez faire concerne donc le comte ? Oui, répondit-il d'un ton solennel. Alors je suis avec vous de cœur et d'âme. Comme vous prenez le train de 10h30, vous n'aurez pas le temps de les lire avant de partir, mais je vais vous chercher les documents et vous pourrez les lire dans le train. Après le petit déjeuner, je le conduisis à la gare. Au moment de nous séparer, il me dit : Peut-être viendrez-vous à Londres si je vous le demande. Et Madame Mina également. Nous viendrons tous deux quand vous le désirerez, dis-je. Je lui avais acheté les journaux du matin, ainsi que les journaux de Londres de la veille au soir. Et tandis qu'il me parlait à la fenêtre du wagon, attendant le départ du train, il les feuilletait. Ses yeux s'arrêtèrent soudain sur l'un d'entre eux, la Gazette de Westminster. Je le reconnaissais à sa couleur. Et il devint très pâle. Il lut avec attention en murmurant « Mein Gott, déjà, déjà !» Je crois qu'à ce moment, il ne se souvenait plus de ma présence. Soudain, le sifflet se fit entendre et le train se mit en mouvement. Le docteur se souvint alors de moi et, se penchant à la fenêtre et agitant la main, il cria « Mes sentiments les meilleurs à Madame Mina ! J'écrirai dès que je pourrai !»
Journal du docteur Seward. 26 septembre.
Décidément, rien n'est définitif en ce bas monde. Cela ne fait pas une semaine que j'ai prononcé le mot « fin ». Et voilà que je recommence à nouveau, ou plutôt que je continue le même enregistrement. Jusqu'à cet après-midi, je n'avais aucune raison de penser à ce qui était révolu. Renfield était devenu, à tous égards, aussi sain d'esprit qu'il peut l'être. Il avait repris ses affaires de mouche et recommençait à se préoccuper également d'araignées, ce qui ne me causait aucun tracas. J'avais eu une lettre d'Arthur, écrite dimanche, qui me laissait espérer qu'il supportait merveilleusement bien la situation. Quincey Morris est avec lui, et cela est d'une grande aide, car il est une source bouillonnante de joie de vivre. Quincey m'a écrit une ligne lui aussi, et par ces mots, j'ai appris qu'Arthur a recouvré un peu de son dynamisme naturel. Ainsi, en ce qui le concerne, mon esprit était tranquille. S'agissant de moi, je me mettais au travail avec mon enthousiasme coutumier. Ainsi, j'aurais pu dire sans mentir que la blessure laissée par cette pauvre Lucie était en passe de se cicatriser. Cependant, tout s'est à présent rouvert, et Dieu seul connaît le dénouement de tout ceci. Je ne peux m'empêcher de penser que Van Helsing pense le connaître également, mais il lâchera les informations au compte-gouttes, juste assez pour attiser la curiosité. Il s'est rendu à Exeter hier et y est resté toute la nuit. Aujourd'hui, il est revenu et a presque bondi dans ma chambre vers 17h30, me fourrant dans la main l'exemplaire du soir de la Gazette de Westminster. « Que pensez-vous de cela ? » demanda-t-il, en reculant et en croisant les bras. Je jetai un coup d'œil au journal. Je ne savais pas du tout de quoi il voulait parler, mais il me le prit des mains et désigna un paragraphe à propos d'enfants enlevés du côté de Hampstead. Je ne trouvais pas l'article très intéressant, jusqu'à ce que j'arrive au passage où l'on décrit les petites blessures percées sur leur gorge. Il me vint une idée et je levai les yeux. « Alors, demanda-t-il, cela ressemble à celle de la pauvre Lucie. Et qu'est-ce que vous faites de cette constatation ? Simplement qu'il doit y avoir une cause commune. Quoi que cela soit, ce qui l'a blessée, elle, a aussi blessé les enfants. » Je ne compris pas très bien sa réponse. C'est vrai indirectement, mais pas directement. « Que voulez-vous dire, professeur ? » demandai-je. J'étais quelque peu enclin à prendre sa gravité à la légère, car après tout, 4 jours de repos et de liberté, après une angoisse brûlante et pénible, avaient grandement amélioré mon humeur. Mais quand je vis son visage, cela me dégrisa. Jamais, même au plus noir de notre désespoir, au chevet de la pauvre Lucie, il n'avait paru plus grave. « Dites-moi, dis-je, je ne puis hasarder aucune opinion, je ne sais que penser, et je n'ai aucune donnée sur laquelle je puisse fonder une hypothèse. Êtes-vous en train de me dire, ami John, que vous n'avez aucune espèce d'idée de la cause de la mort de Lucie ? Pas après tous les indices que vous ont apportés non seulement les événements, mais moi-même. Elle est morte d'une prostration nerveuse faisant suite à une grande perte de sang. Et comment tout ce sang a-t-il été perdu ? Je secouai la tête. Il s'approcha et s'assit devant moi pour poursuivre. Vous êtes un homme intelligent, ami John. Vous raisonnez correctement et votre esprit est clair, mais vous êtes plein de préjugés. Vous ne laissez pas vos yeux voir ni vos oreilles entendre, et tout ce qui s'éloigne un tant soit peu de votre vie quotidienne, vous ne le prenez pas en compte. Ne pensez-vous pas que certaines choses que vous ne pouvez comprendre existent pourtant, que certaines personnes voient des choses que d'autres ne peuvent voir ? Mais il y a des choses anciennes et nouvelles que les hommes ne peuvent contempler avec leurs yeux, parce que les hommes savent ou croient savoir des choses que d'autres hommes leur ont dites. Ah, c'est la faute de notre science qui veut tout expliquer. Quand elle n'explique pas, alors elle dit qu'il n'y a rien à expliquer. Et pourtant, nous voyons tout autour de nous, tous les jours, le développement de nouvelles croyances, qui se croient nouvelles tout au moins, et qui ne sont autres que les vieilles croyances prétendant être jeunes, comme les belles dames de l'opéra. Je suppose que vous ne croyez pas au transfert corporel, non, ni à la matérialisation, non, ni au corps astral, non, ni à la télépathie, non, ni à l'hypnotisme, si, dis-je. Charcot a démontré cela assez brillamment. Il sourit en continuant. « Alors, vous êtes d'accord avec cela ? Oui. Et bien sûr, vous comprenez comment cela fonctionne, et vous êtes capable de suivre l'esprit du grand Charcot, paix à son âme, à l'intérieur même de l'âme du patient qu'il soumet à son influence. » « Non. Alors, ami John, dois-je en conclure que vous acceptez simplement le fait et que vous supportez qu'entre les prémices et la conclusion, il y ait un blanc ? Non, alors dites-moi, car j'étudie le cerveau, comment vous acceptez l'hypnotisme tout en rejetant la télépathie ? Laissez-moi vous dire, mon ami, qu'il y a des avancées de nos jours dans la science électrique qui qui aurait paru diabolique aux inventeurs eux-mêmes de l'électricité, qui eussent été eux-mêmes, il n'y a pas si longtemps, brûlés pour hérésie. Il y a toujours eu des mystères dans la vie. Pourquoi donc Mathusalem a-t-il vécu 900 ans et Old Parr 169, alors que la pauvre Lucie, avec le sang de 4 hommes dans les veines, n'a pas pu survivre ne serait-ce qu'un seul jour? Car si elle avait vécu un seul jour de plus, nous aurions pu la sauver. Connaissez-vous tous les mystères de la vie et de la mort? Connaissez-vous donc tous les tenants de l'anatomie comparée et êtes-vous capable de dire pourquoi des caractéristiques animales se retrouvent chez certains hommes, mais pas chez les autres? Pouvez-vous me dire pourquoi, alors que les autres araignées meurent petites et rapidement, une énorme araignée a vécu pendant des siècles dans la tour de la vieille église espagnole et n'a cessé de grandir et de grandir jusqu'à ce qu'elle fût capable, en descendant, de boire l'huile de toutes les lampes de l'église? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans la Pampa et également ailleurs, il y a des chauves-souris qui viennent la nuit, ouvrent les veines du bétail et des chevaux et sucent leur sang jusqu'à la dernière goutte? Comment il se fait que dans certaines îles des mers occidentales, des chauves-souris se suspendent à des arbres toute la journée, semblables, d'après ceux qui les ont vus, à des noix ou à des cosses géantes, et se laissent tomber sur les marins qui dorment sur le pont en raison de la chaleur? Des marins que l'on retrouve au matin raides morts, aussi livides que l'était Miss Lucie. « Grand Dieu, professeur, m'exclamai-je, êtes-vous en train de suggérer que Lucie a été mordue par une telle chauve-souris et qu'une telle chose existe ici à Londres en plein XIXe siècle ? » Il agita sa main pour obtenir le silence et poursuivit. « Pouvez-vous me dire pourquoi les tortues vivent plus longtemps que des générations d'hommes ? Pourquoi l'éléphant se maintient indéfiniment jusqu'à ce qu'il ait survécu à des dynasties ? Et pourquoi le perroquet ne meurt jamais, à moins d'être mordu par un chat ou un chien, ou d'être atteint d'un autre mal ? Pouvez-vous me dire pourquoi les hommes ont toujours cru, en tout lieu et à toutes les époques, qu'il existe un petit nombre d'immortels, que certains hommes, certaines femmes, ne peuvent mourir ? Nous savons tous, car la science l'a attesté, qu'il y a eu des crapauds emprisonnés dans la pierre, dans des trous si petits qu'ils ne pouvaient contenir que leur corps, pendant des milliers d'années, depuis la jeunesse du monde. Pouvez-vous m'expliquer comment le fakir indien s'y prend pour mourir, être enterré, avoir sa tombe scellée, recouverte de blé, pendant un temps si long que le blé a eu le temps de pousser, d'être fauché, ressemé et de pousser à nouveau et d'être fauché une fois encore? Et lorsque des hommes arrivent et décèlent la pierre tombale, le fakir est retrouvé vivant, se lève et marche parmi eux comme avant. » Ici, je l'interrompis. Je commençais à être submergé. Il noyait mon esprit d'un tel flot d'excentricité naturelle et de possibles potentialités que mon imagination s'enflammait. J'avais vaguement conscience qu'il essayait de m'enseigner quelque chose, comme il avait l'habitude de le faire dans son bureau à Amsterdam. Mais à l'époque, il me disait ce qu'il entendait démontrer, afin que je garde cette idée à l'esprit pendant toute sa démonstration. Pour l'heure, je me retrouvais sans cette béquille. Mais je désirais le suivre malgré tout, et je dis « Professeur, laissez-moi redevenir votre étudiant favori. Dites-moi la thèse, que je puisse appliquer vos connaissances tandis que vous continuez. Sans cette boussole, mon esprit erre d'un point à un autre à la manière dont un fou poursuit une idée. Je me sens comme un novice traversant un marais dans le brouillard, sautant d'une touffe d'herbe à une autre, dans l'effort aveugle de me mouvoir sans savoir où je vais. « C'est une bonne image, » dit-il. « Eh bien, je vais vous le dire. Ma thèse est la suivante. Je veux que vous le croyiez. » « Que je croie quoi ?»« Que vous croyiez des choses que vous ne pouvez pas croire. » Laissez-moi illustrer ma thèse. J'ai entendu parler un jour d'un Américain qui définissait ainsi la foi. La faculté qui nous permet de croire des choses dont nous savons qu'elles ne sont pas vraies. Pour une fois, je suis d'accord avec cet homme. Il a voulu dire que nous devons tous avoir un esprit ouvert et ne pas laisser un petit morceau de vérité compromettre l'avènement d'une grande vérité, comme une petite pierre peut entraver un wagon sur des rails. Nous avons la petite vérité en premier, bien, nous la tenons, nous la pressions. Mais tout de même, nous ne devons pas lui laisser croire que c'est la seule vérité de l'univers. Ainsi, vous souhaitez que je ne laisse pas quelques convictions déjà formées entamer la réceptivité de mon esprit à un sujet étrange. Est-ce que j'ai bien compris votre leçon ? Oui, vous êtes toujours mon élève favori. Vous enseignez est gratifiant. Maintenant que vous voulez comprendre, vous avez réalisé le premier pas vers la compréhension. Vous pensez donc que ces petits trous dans la gorge des enfants ont été faits par la même chose qui a fait les trous sur Miss Lucy. Oui, je crois. Il se leva et dit avec solennité. Alors, vous avez tort. Oh, j'aimerais qu'il en fût ainsi. Mais hélas, non, c'est pire, c'est bien, bien pire que cela. Au nom de Dieu, professeur Van Helsing, qu'insinuez-vous ? Lui criai-je. Il se jeta avec un air désespéré sur une chaise et plaça ses coudes sur la table, couvrant sa face de ses mains tandis qu'il articulait « Ces trous ont été faits par Miss Lucy !»